Bon, alors, comment s'y retrouver dans le monde des placements aujourd'hui? C'est vrai qu'avec l'inflation, les marchés qui bougent tout le temps, c'est pas simple.
Non, c'est clair, c'est la question que beaucoup se posent. Où mettre son argent efficacement?
Exactement. Et puis, est-ce qu'il y a des secteurs qui tiennent mieux le coup en cas de crise? Peut-on investir de manière durable?
Et la question du risque aussi, qu'est-ce qui rapporte le plus, mais à quel prix?
Sans oublier l'immobilier. Souvent vu comme un casse-tête, un truc laborieux, il y a moyen de simplifier.
Alors, pour répondre à tout ça, on a brassé pas mal d'analyses d'experts sur l'or, l'art, l'immo, les marchés financiers, la finance durable, même les forêts.
Super. Alors par où on commence?
La base de la base, peut-être?
Oui, bah le point de départ sur lequel beaucoup insistent, c'est la vision à long terme.
Et la diversification, c'est-à-dire équilibrer son portefeuille, quoi. Un peu d'actions, un peu d'obligations, des actifs réels, genre l'immobilier ou l'or, et puis des liquidités.
Ok. Quatre parts égales?
Pas forcément égales, justement. Ça dépend de chacun, de sa tolérance au risque, de ce qu'il appelle sa qualité de sommeil. L'important, c'est d'être à l'aise avec ses choix.
Et de réajuster de temps en temps, j'imagine.
Exactement. Rééquilibrer pour que ça colle toujours à la stratégie de départ.
D'accord. Mais avant de choisir son quatre quarts, faut connaître les ingrédients. Les grandes classes d'actifs, c'est quoi les ordres de grandeur?
Alors, si on regarde les moyennes historiques, les actions, ça peut viser les 10% par an. Mais attention.
Oui, ça peut secouer fort. On parle de drawdowns, des chutes qui peuvent aller jusqu'à 50%, c'est ça, hein?
C'est ça, c'est pas un long fleuve tranquille. L'or, c'est plus modeste, historiquement autour de 5% par an. C'est plus vu comme une protection contre l'inflation qu'un moteur de croissance. Et très volatile aussi d'ailleurs.
Et l'immobilier, si on prend les SCPI par exemple.
Là, on est sur du 5-6% par an en moyenne, sur très longue durée. L'inconvénient principal, c'est que c'est moins liquide. On ne vend pas ses parts de SCPI en un clic comme une action.
Moins facile de récupérer son argent rapidement, quoi.
Voilà. Et puis, pour ceux qui cherchent encore plus de potentiel, il y a le private equity, investir dans des boîtes non cotées. Là, on peut viser plus de 12%, mais
Mais l'argent est bloqué longtemps, c'est ça, hein?
souvent plusieurs années, oui. Et il y a les cryptos aussi, bien sûr. Gros potentiel, mais volatilité extrême et des risques très spécifiques. Clairement pas pour tout le monde.
Ok, restons sur le concret, l'immobilier. Ça fait souvent un peu peur, ce côté laborieux. Oui, mais Julien Calamotte, lui, il dit qu'il faut dédramatiser. Déjà, on peut déléguer pas mal de choses, les travaux, la gestion. Ah oui, on n'est pas obligé de tout faire soi-même.
Non. Et surtout, il insiste sur l'optimisation fiscale, le LMNP. Loueur meublé non professionnel.
Pourquoi c'est mieux que la location nue, par exemple?
Souvent, c'est plus simple et plus avantageux fiscalement. Les règles comptables sont différentes et on évite parfois la complexité du déficit foncier de la location nue.
D'accord. Et si on veut la pierre, mais sans la gestion? Alors, il y a la pierre papier version nature. Les groupements fonciers forestiers, les GFF, zone bourse en parle. On investit dans des forêts. C'est très concret. Et on n'a pas à gérer les arbres soi-même.
Non, c'est géré par des professionnels. Le rendement est plus faible, autour de 2%, mais c'est du très long terme et c'est déconnecté des marchés.
Intéressant. Mais Calamotte dit aussi qu'il faut quand même se bouger un peu pour l'immobilier classique, non?
Ah oui, ça c'est clé. Il dit, faut sortir de chez soi, visiter, comprendre le marché local, se faire un réseau. L'immo, ça c'est pas que derrière un écran.
Logique. Parlons des crises maintenant. Quels sont les actifs qui résistent le mieux?
L'or revient toujours. Oui, l'or, c'est le refuge classique. Jean-François Faure le voit comme une assurance patrimoine. Il conseille 5% pour un portefeuille déjà bien diversifié, mais ça peut monter à 20% si on a peu d'autres actifs.
Et il y a une différence entre pièces et lingots?
Oui, c'est intéressant ce qu'il dit. Les pièces, comme le Napoléon, peuvent avoir une prime en temps de crise. Elles deviennent plus chères à l'achat, mais on peut potentiellement les revendre mieux qu'un lingot.
Bon à savoir. Mais la fiscalité?
Exonération sur la plus-value après 22 ans, mais attention. Il faut absolument avoir une preuve d'achat avec la date et le prix, sinon ça marche pas.
Ok, la paperasse est importante. D'autres refuges?
L'art?
L'art, oui. Arnaud Dubois dit que c'est un marché stable car il y a peu de valeurs d'usage. Mais il prévient, c'est opaque. Sa stratégie, c'est d'acheter bien en dessous du marché, genre moins 30 ou moins 40%. Faut connaître, hein. Clairement pas pour les débutants. Et les forêts, on en a parlé.
Oui, actif, tangible, très long terme. Mais au final, la meilleure défense contre les turbulences, Éric Bertrand le répète, c'est
la diversification.
Encore elle.
Toujours.
Ok, et si on cherche la performance, quitte à prendre plus de risques?
Les actions, on y revient.
Oui, les actions, ça reste incontournable pour le potentiel de croissance. Mathieu Louvet insiste beaucoup sur la diversification mondiale. Ne pas tout miser sur son propre pays, éviter le biais domestique.
Et le private equity, donc pour le potentiel, mais avec l'illiquidité. Et les cryptos? Là, c'est le Far West pour certains. Asher met en garde. Volatilité extrême, même pour Bitcoin. Il conseille souvent le DCA, le Dollar Cost Averaging. Investir régulièrement des petites sommes pour lisser le risque.
C'est ça. Et surtout, surtout, sécuriser ses clés privées, c'est vital. Finari rappelle aussi que miser gros sur un seul truc, ça peut payer, mais faut une conviction énorme et accepter le risque de tout perdre.
Passons à l'investissement durable. On peut vraiment faire rimer argent et écologie.
Alors là, c'est complexe. Julien Le Fournier est assez critique sur la finance verte. Il dit que les marchés ne vont pas spontanément vers l'écologie et qu'il faut faire gaffe au greenwashing.
Et l'éco-blanchissement, quand on se dit plus vert qu'on ne l'est.
Exactement. Il pointe du doigt les banques qui parlent beaucoup d'écologie mais continuent de financer massivement les énergies fossiles. Faut rester vigilant.
Mais il y a quand même des pistes concrètes.
Oui.
Oui, oui. Zone Bourse mentionne par exemple les forêts avec un certificat de gestion durable. Ça peut avoir un intérêt écologique, mais aussi fiscal. Réduction d'IFI, avantage pour la succession. Donc, c'est possible, mais il faut creuser. Regarder où va vraiment l'argent.
C'est ça. Faut pas se fier juste à l'étiquette verte.
Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de formule magique.
Non, absolument pas. Investir efficacement, c'est d'abord avoir une stratégie claire, adaptée à soi, long terme, diversification selon son profil de risque. C'est aussi bien connaître les produits, leur potentiel, leurs risques et leurs coûts. Faut pas oublier les frais.
Très important, oui.
Et chercher à optimiser la fiscalité, la gestion, comme pour l'IMO. Et pour le durable, garder un œil critique.
Tout à fait. Le succès ne vient pas des prédictions. Mathieu Louvet rappelle que les experts se trompent souvent dans leurs prévisions annuelles.
Ah oui, c'est rassurant quelque part.
Oui.
Ce qui compte, c'est la discipline. Continuer à apprendre et s'adapter. S'adapter au marché, mais aussi à sa propre vie qui change. C'est un marathon.
Un marathon, bien dit. Et pour finir, une petite ouverture. Si on maîtrise un peu mieux les actifs classiques, où est-ce qu'on pourrait chercher les opportunités de demain?
Ah, la question à un million. Finari faisait une comparaison un peu osée. L'IA, l'intelligence artificielle, comme un nouveau Far West, un peu comme le pétrole à l'époque de Rockefeller, avec Nvidia comme exemple.
C'est une image forte, oui. Ça montre que tout bouge très vite.
Exactement. Ça nous rappelle que le paysage de l'investissement n'est jamais figé. Alors peut-être que la vraie question pour préparer l'avenir, c'est... où sera la prochaine grande vague de création de valeur? Voilà de quoi réfléchir.